Gloire à Dieu pour tous ceux qui voient la nouvelle année comme une course. Leur cœur est plein de projets et ils ont envie de s'élancer, ils ont envie de saisir Jésus-Christ comme ils ont été saisis eux-mêmes par le Seigneur. Mais il faut reconnaître qu'au milieu de nous, d'autres sont dans une situation différente. Et eux, ils ne voient pas l'année devant eux, mais ils voient surtout l'année derrière eux. Et peut-être dans votre cœur ce matin, la prière qui est là, c'est de dire « Seigneur, une année s'est encore écoulée et je ne suis pas sauvé. » Et peut-être de dire alors, comme David l'exprime dans ce psaume, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Alors regarde-moi, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais Seigneur, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut et je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia, gloire à Dieu. L'une des choses les plus difficiles à appréhender dans la Bible et pourtant indispensable pour qui veut bien la connaître, ce n'est ni l'archéologie, ni la maîtrise des langues anciennes, ni même la connaissance des traditions hébraïques. Non, cette chose indispensable, c'est une chose universelle. C'est une chose qui, souvent, nous poursuit, nous devance. Elle est avec nous partout, en toute situation, dans chaque parole, dans chaque pas, dans chaque décision. Cette chose indispensable pour comprendre bien la parole de Dieu, c'est le temps. Non pas le temps à l'extérieur, mais le temps que nous portons souvent à nos poignets. Et le temps est une drôle de chose dans la Bible. C'est une dimension souvent mal perçue, assez insaisissable, d'autant plus que pour le Seigneur, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Or, voyez-vous, trop souvent, nous lisons la parole de Dieu dans un espèce de présent permanent. Et trop souvent, nous lisons sans cette perspective du temps. Le temps donne un relief à la Bible. Mais quand nous lisons dans notre présent, dans le présent de notre lecture, les événements s'enchaînent. Ils se rassemblent, ils se compactent, ils fusionnent dans un espèce de temps compressé, de temps ramassé. Pourtant, il arrive très fréquemment que dans un récit, notamment dans l'Ancien Testament, lorsqu'on passe d'un paragraphe à un autre, pour nous, c'est une fraction de seconde, mais dans la vie d'un homme, de cette femme, c'est peut-être des mois, peut-être des années, peut-être parfois même des dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Et si nous ne prenons pas garde à ça, mais que nous sommes dans une lecture du temps présent, eh bien, nous faisons l'impasse sur le temps qui passe. Et en lisant les choses dans un présent permanent, nous évacuons toute tension. Nous évacuons toute attente et nous ne comprenons pas l'importance du temps dans l'enseignement biblique. Et quand nous sortons de nos lectures, de la Bible, et que nous revenons dans notre temps présent, eh bien nous sommes parfois déstabilisés. Parce que nous disons, Seigneur, je ne comprends pas. Je vois la vie de cet homme, je vois tes promesses. Et Seigneur, moi, je ne comprends pas qu'il y ait tant de temps. Parce que nous n'avons pas perçu la dimension du temps dans la parole de Dieu. Alors, nous crions, mais Seigneur, jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Et pour nous, le temps qui passe devient alors un sujet de tension, d'incrédulité, jusqu'au point de saper les bases de notre foi. En ce début d'année, en ce jour, je veux, mes frères, mes sœurs, vous apporter une parole d'encouragement. Vous dites, une année est passée, le temps est passé, le temps a passé. Mais je voudrais vous dire que le temps de Dieu n'est pas passé. Il est encore celui qui peut faire pour chacun d'entre nous un jour nouveau, qui sera un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Alors quand certains Regarde l'année qui est devant nous avec joie. Eh bien, nous l'avons dit d'autres, regarde à celle qui vient de se terminer en disant le temps a passé et les choses dans ma vie sont toujours les mêmes. Depuis longtemps, tu espères, depuis longtemps, tu attends, tu pries. Il t'arrive même fréquemment de pousser des soupirs, de dire « Hélas, Seigneur !» et même de pleurer. Et pour toi, chaque année qui s'enchaîne signifie qu'une année de plus s'est écoulée et tu n'as pas été exaucé, tu n'es pas sauvé. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps attends-tu ? Depuis combien de temps attends-tu un exaucement à ta prière ? Combien de temps attends-tu une guérison, une délivrance, une réconciliation ? Tu attends. Dans la foi, tu t'encourages. « Je n'abandonnerai pas, Seigneur, tu m'as parlé. » Mais il t'arrive aussi, lorsque tu pries dans le secret, de crier à ton Dieu, « Seigneur, hâte-moi de me délivrer. » Quand tu viens dans l'église, tu n'oses pas exprimer publiquement tous les sentiments de ton cœur, parce que parfois on t'accuserait d'incrédulité ou de prononcer des mauvaises paroles contre le Seigneur. Mais souvent tu dis, « Seigneur, le temps a passé, le temps a passé, et tu n'as rien fait. » Peut-être certains au milieu de nous vont dire ce matin, le temps a passé et les promesses de Dieu pour ma vie ne se sont pas accomplies. Un jour, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as reçu une parole du Seigneur, une parole de foi, je ne sais pas laquelle. Au fond, peu importe, pour l'un, une parole de guérison, de réconciliation, d'espérance. Dieu parle de tellement de différentes manières. Et lorsque tu as reçu cette parole, oui, elle a trouvé en toi un bon terrain. Peut-être à ce moment-là avais-tu espéré qu'elle produise un miracle. Le miracle est-il venu, gloire à Dieu, et le miracle n'est-il pas venu? Eh bien, tu as malgré tout gardé la parole en te disant, oui, Dieu peut agir par des miracles instantanément, ou le Seigneur peut choisir d'éprouver ma foi et de faire grandir sa parole comme une plante qui produira son fruit en son temps. Alors tu as dépassé la déconvenue du miracle et tu t'es attaché à la parole du Seigneur. Seulement, il faut bien reconnaître que l'attente est longue, que l'épreuve dure. Et véritablement, pour toi, un jour est devenu comme 1000 ans. Et chaque jour qui passe devient de plus en plus pesant. La souffrance demeure. Et tu gardes la parole, tu gardes la promesse. Tu voudrais regarder devant toi, trouver la lumière, mais ce n'est qu'un tunnel tout noir qui semble se passer devant toi. Et peut-être finiras-tu même par parler comme Sarah, qui voyant les années passer, son corps s'affaiblir, dire « Maintenant, Seigneur, je suis vieille. » Comme pour dire « Seigneur, maintenant, il me paraît que les choses sont trop tard. Seigneur, il me paraît que je ne vois plus le sens de cette promesse. » D'autres au milieu de nous vont peut-être dire ce matin « Seigneur, le temps a passé quant à l'espérance du salut, quant à l'espérance d'un réveil. » Depuis que j'ai l'âge de comprendre ce que les adultes demandent dans leurs prières et ce que les prédicateurs prêchent, j'entends parler de réveil, de désir de réveil. Je ne parle pas simplement pour les extrémités de la terre, mais pour nous en France. J'ai entendu des enseignants, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, et leur message était plein de force, plein de foi, et ils annonçaient des choses glorieuses pour notre pays. Je ne veux pas les juger, les critiquer, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que ce qu'ils prêchaient, ils le vivaient intensément dans leur cœur. Le réveil s'est accompli dans tant d'endroits de ce monde. Mais nous n'avons pas encore été touchés. Et peut-être que, pour être plus précis que le mot réveil, c'est peut-être le salut d'un bien-aimé, d'un époux, d'une épouse, d'un parent, d'un enfant, que tu attends, que tu espères. Tant de fois, Dieu a parlé, mais les choses ne sont pas venues. Alors le temps a passé, le salut n'est pas venu. Le réveil ne s'est pas manifesté, et au contraire, on a l'impression que la situation devient de plus en plus difficile. Les cœurs sont de plus en plus durs, il est de plus en plus difficile d'annoncer l'évangile. Il n'est pas facile encore de prêcher le réveil, de prier pour le réveil. Tant d'années, tant de décennies sont passées. Tant de serviteurs se sont usés à la tâche. Et parfois, nous pourrions avoir cette pensée de Jérémie qui, regardant la situation de la ville de Jérusalem, disait « Seigneur, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Peut-être que c'est la parole que tu donnes sur tes enfants. La moisson est passée, Seigneur, l'été est fini, je les vois maintenant, mais qu'espérer maintenant quant à eux ? Ou alors tu regardes dans notre ville, tu regardes dans notre pays et les pensées sont les mêmes. Et tu en arrives peut-être encore, comme Jérémie, à dire, eh bien, écoute, Seigneur, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, j'abandonnerais ma famille, j'abandonnerais les miens, je m'en éloignerais car ce sont tous des adultères, ce sont tous des perfides, et j'irai pleurer dans ma cabane. C'est peut-être un syndrome qui pourrait toucher plus d'une église et plus de, qu'on le croit, de personnes au milieu de nous. Je veux reconnaître aussi que parfois, il est plus facile de céder à certaines facilités que de continuer à travailler pour le réveil et de dire, Seigneur, eh bien, nous allons essayer de mieux nous organiser. Nous allons essayer de mieux travailler à l'intérieur de l'église, de mieux nous développer. Parce que le temps a passé et nous ne sommes pas sauvés. D'autres diront, Seigneur, le temps a passé quant à ton retour. Et reprenant la parole de Pierre, de poser cette question, mais où est la promesse de ton avènement ? Là encore, depuis mon enfance, j'entends parler, j'entends prêcher sur le retour imminent, le retour proche de Jésus-Christ. Et quand j'étais tout gamin, peu dans les églises auraient misé sur le fait que nous atteignions l'an 2000. N'est-ce pas ? Et nous l'avons atteint, et nous l'avons bien dépassé, et le Seigneur n'est pas revenu. Oh ! Dans ces années-là, les cœurs étaient pleins d'espérance, pleins de ferveur. Il se passait des moments extraordinaires. Pour la génération qui m'a précédé, de mes parents, grands-parents, ils ont vu la restauration d'Israël. Ils ont vu des choses extraordinaires, la parole de Dieu se vivre, comme nous avons pu vivre nous-mêmes en direct des événements que la Bible annonçait. Mais le Seigneur n'est pas revenu. Et ce que l'on observe, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'enseignements, c'est un désintérêt aujourd'hui pour les questions prophétiques et les questions du retour de Jésus, ce qu'on appelle l'eschatologie, pour dire, eh bien, il y a d'autres choses à voir, c'est trop compliqué, il y a trop de discussions entre les uns et les autres. Oublions cela, oh, gardons-le dans un coin de notre mémoire. Oui, Jésus reviendra. Mais nous en voyons de plus en plus qui prêchent quoi ? Eh bien, ce qu'on appelle le royaume maintenant, en anglais « kingdom now », c'est-à-dire la recherche des biens matériels, du succès sur la terre, de la prospérité, le coaching, le développement, l'épanouissement personnel. Réussissons maintenant parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Dans toutes ces choses, les promesses, le salut, le retour de Jésus, le temps passe, le temps a peut-être même bien passé, les décennies ont passé, les générations ont passé. Mais je veux quand même considérer ces deux choses. La première, c'est que contrairement aux incrédules qui disent « mais toutes choses sont semblables depuis la création », nous disons non. Tout ne demeure pas comme dès le commencement. Car Dieu agit au milieu de nous. Il agit dans le monde entier, mais il agit dans nos vies, il agit dans nos familles. Dieu confirme sa parole. Nous n'avons peut-être pas vu toutes les promesses être réalisées, mais nous avons goûté à la fidélité de Dieu. Nous avons vu les miracles de Dieu dans notre vie. Nous avons reçu et gardé les paroles du Seigneur. Nous l'avons vu agir autour de nous. Et nous ne pouvons pas dire que rien n'a changé parce que Dieu a agi. Et en même temps, nous gardons dans nos cœurs la parole de l'apôtre Pierre qui disait « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. » Alors tout à l'heure, nous allons reparler de cette dimension qu'évoque Pierre ici, c'est-à-dire le temps de notre Seigneur. Mais d'abord, je voudrais encore m'arrêter sur une notion quant au temps qui passe, c'est celle des pièges du temps. Le temps qui passe peut être une source de piège pour nous. Je pourrais en voir plusieurs, je vais m'arrêter sur deux exemples. Et le premier nous ramène dans le livre de la Genèse au chapitre 16e. Et là, nous allons parler du piège de la précipitation. Nous allons parler de Sarah. Ça fait déjà quelque temps que Abraham et Sarah ont quitté le pays de Charan et que Dieu a parlé à Abraham concernant un fils qui devait naître. Tous deux étaient déjà âgés, mais en plus les années ont passé et l'enfant n'était toujours pas là. Alors un jour, Sarah va se tourner vers son époux Abraham et elle va lui dire ceci au verset 2, « Viens vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » C'était une coutume de l'époque où la maîtresse d'une maison pouvait donner à son époux sa servante et l'enfant qui naîtrait de leur relation appartiendrait à la maîtresse de maison. Alors Abraham écouta la voix de sa femme. Nous savons ce qu'il advint, la naissance d'Ismaël, et nous savons toute l'amertume que cela créa ensuite dans le cœur de Sarah. Mais je voudrais insister sur autre chose. Avez-vous perçu que la proposition de Sarah, que le peut-être de Sarah, fut cause de 13 années de silence entre Dieu et Abraham et Sarah ? Regardez avec moi la fin de Genèse chapitre 16, le dernier verset, 16-16, où il est dit que Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et je continue pour nous une fraction de seconde. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, etc. En un verset, on vient de sauter 13 années de vie de ce couple. 13 années de silence de la part de Dieu, tout ça à cause d'une parole de Sarah, peut-être. Les moyens de l'homme, les voies de l'homme, les voies de la chair contre les voies de Dieu. Non seulement, j'en suis convaincu, parce que Sarah est allée dans cette voie, Dieu s'est tu pendant 13 ans, mais je suis convaincu qu'à cause de cela, la naissance d'Isaac a été retardée. Parce qu'elle a voulu se précipiter. Parce qu'elle disait « mon corps vieillit ». Parce qu'elle disait « le temps passe ». Mon frère, ma sœur, la tentation du peut-être, la tentation de la précipitation, la tentation de la voix de l'homme te fera perdre plus de temps dans l'accomplissement des projets de Dieu en ta faveur. L'autre exemple que je voudrais prendre nous amène dans l'évangile de Luc, tout début de cet évangile, où nous rencontrons là deux personnes, Zacharie et Élisabeth, un couple âgé lui aussi. Et nous sommes au verset 6, et à travers l'exemple de ce couple, je voudrais parler du temps qui engendre l'incrédulité, le temps qui passe, qui peut nourrir l'incrédulité, ou comme Jésus l'exprima au sujet de Jérusalem, le temps qui passe peut nous amener à ne pas reconnaître le temps où Dieu nous visite. Zacharie et Élisabeth étaient tous deux serviteurs fidèles de Dieu, Zacharie était un prêtre, et le verset 6 nous dit qu'ils étaient tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà un bon couple, n'est-ce pas ? On voudrait que, n'est-ce pas, une telle parole soit écrite nous concernant, des gens irréprochables. Seulement, ce couple vivrait un drame, une absence, il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, nous dit le texte. Alors certainement ont-ils espéré, ont-ils prié ? Et voilà qu'un jour, alors qu'il est appelé pour servir le Seigneur dans le temple et offrir à Dieu des parfums, Zacharie reçut la visite de l'ange Gabriel. Je vous rappelle, il est donc dans le lieu saint, très saint, dans la présence de Dieu, et il offre des parfums au Seigneur. L'ange le visite. À vrai dire, ça ne devrait pas être tellement une surprise puisqu'il est dans la présence du Seigneur. Mais lorsqu'il le voit, le texte nous dit qu'il fut troublé, verset 12, et que la frayeur s'empara de lui. Vous l'imaginez, lui un sacrificateur, un homme de Dieu, un homme irréprochable, il sert Dieu dans la présence de Dieu, l'ange lui apparaît et il perd tous ses moyens. Mais surtout, il ne sut pas accueillir Gabriel, mais il ne sut pas accueillir la parole que Gabriel lui a portée de la part du Seigneur. Et nous voyons qu'au verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» au sujet de la naissance de l'enfant Jean-Baptiste. Vous imaginez ce sacrificateur, ce couple qui a attendu peut-être depuis tant d'années la naissance d'un enfant et qui maintenant entend la parole de l'ange et qui demeure troublé, effrayé, incrédule. Le temps qui passe, même si nous vivons tout entier pour Dieu, peut nous amener, et nous devons y faire attention, dans une vie religieuse stérile. La parole de l'espérance, la parole de la foi peut être étouffée par le temps qui passe. Et alors nous pouvons risquer, comme Zacharie, de ne pas reconnaître le jour où Dieu nous visitera. Voilà donc deux pièges que je voulais évoquer avec vous et je voudrais maintenant vous dire ceci, c'est que si nous trouvons que le temps passe, le temps de Dieu n'est pas passé. David disait, ma destinée est entre tes mains, Seigneur, ou encore mes temps sont entre tes mains, ou encore à tout moment, ma vie est entre tes mains, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait. Nous savons que David a traversé plus d'un moment difficile. Il croyait que chacun de ses instants était entre les mains de Dieu, compté devant Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu crois que le temps a passé, au point même de dire que le temps de Dieu est passé, si tu te trouves peut-être enfermé dans les pièges du temps, je veux encore te dire que parce que tu appartiens à Dieu, ta destinée est entre ses mains. Tes temps sont entre ses mains. Chaque instant de ta vie est entre les mains du Seigneur et le temps de Dieu n'est pas passé. Peut-être, oui, trouves-tu chaque jour pesant comme 1000 ans. Peut-être ta souffrance est là à chaque instant et tu te dis « j'ai tout perdu ». Je suis seul avec ma souffrance, mon abattement. Le temps passé n'a fait qu'accentuer la situation. Seigneur, je demeure sans emploi. Seigneur, je demeure seul dans ma vie, dans l'attente toujours de cette compagne, de ce compagnon que tu veux me donner. Je demeure, Seigneur, dans ma maladie. Je suis seul, Seigneur, dans ce combat. Et le temps passe. Mais Dieu demeure le maître du temps. Il est encore celui capable d'arrêter la course de la lune et du soleil au-dessus de la plaine d'Ajalon. Il est encore capable de faire reculer l'ombre du soleil sur les degrés. Il tient encore ton temps entre ses mains et il reste capable. Dieu est capable de fixer un jour nouveau pour toi. Un jour qui sera un jour de joie, un jour d'allégresse. Ne dis plus le temps a passé. Ne dis surtout pas le temps est passé. Car Dieu tient tes temps entre ses mains. Et la Bible dit ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Son temps. L'adage dira peut-être « le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes ». Dieu est hors du temps et Dieu a son temps. Et je voudrais parler de 3-4 choses rapidement concernant le temps de Dieu, son temps. Vous dire premièrement que le temps du Seigneur, c'est le temps favorable. Ésaïe 49, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable, je t'ai secouru ». Le temps favorable, c'est le temps de la grâce selon certaines versions. Celui où Dieu va manifester pleinement son secours, c'est le temps que Dieu connaît. Nous ne connaissons pas tous les tenants, les aboutissants d'une situation. Mais Dieu les connaît. Et peut-être avez-vous déjà expérimenté cette chose. Nous avons attendu longtemps le dénouement d'une situation, l'exaucement d'une prière. Mais nous avons reconnu que lorsque Dieu a agi, c'était le temps favorable. C'était le temps favorable parce que lui connaît toutes choses. Nous n'avons pas cette vue comme le Seigneur là. Mais David disait ceci, Seigneur, je t'adresse ma prière, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Ailleurs, il dira, hâte-moi de me délivrer. Oui, Seigneur, que maintenant vienne le temps favorable. Deuxièmement, le temps de Dieu, c'est aussi le temps convenable. C'est ainsi que d'autres versions traduisent Ecclésiaste 3:11 en disant que Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Le moment qui convient. Ici, l'idée, c'est que vraiment la chose que nous espérons sera belle, c'est-à-dire qu'elle sera pleinement épanouie, pleinement prête. Dieu est le divin laboureur. Et il sait quand le fruit est mûr. Et il sait que lorsque il nous donnera le fruit, ce sera au bon moment et cela réjouira pleinement le cœur. Le temps favorable, celui où Dieu manifestera sa grâce, le temps convenable, celui où les choses seront belles. Mais je voudrais aussi ajouter cette dernière dimension que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Galates. Je vous invite à le regarder rapidement, Galates 4, versets 1 à 4, où Paul nous dit des choses importantes concernant le temps. Il dit ceci, Galates 4, 1, « Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Donc Paul ici parle de deux choses. Il parle de temps marqué et de temps accompli. Dieu marque les temps. L'expression en grec veut dire des temps fixés auparavant, des temps déterminés par avance, prédéterminés, des temps qui ne manqueront pas de s'accomplir. Jésus est né dans un temps marqué par Dieu. Avant même la création du monde, dans l'éternité passée, Dieu avait déjà marqué un temps avant même que le temps n'existe. Et ce temps marqué était unique. C'était le temps convenable, c'était le temps favorable pour que Jésus, le Fils de Dieu, vienne sur la terre. Et les historiens sont unanimes pour dire que le moment où Jésus est venu parmi les hommes est un moment extraordinaire. Une conjonction d'événements politiques, culturels, économiques qui ont favorisé à cette époque la diffusion de l'Évangile. Dans tout le bassin méditerranéen, Dieu a envoyé son Fils dans un temps marqué. Dieu marque l'histoire des hommes. Dieu continue de marquer l'histoire des hommes, mais bien plus, Dieu veut marquer ta propre histoire. Crois-tu que ton temps est marqué par Dieu ? Je crois que Dieu marque notre temps, autant de repères qui sont devant nous. Lorsque je prêchais il y a quelque temps sur compte les bienfaits de Dieu, je disais que les bienfaits de Dieu sont comme autant de jalons, de repères, de bornes sur le chemin que nous avons accompli. Mais je voudrais vous dire que devant nous, il y a d'autres jalons, il y a d'autres bornes, d'autres marques. Dieu a marqué les temps, Dieu a marqué notre temps. Et rien n'empêchera l'accomplissement de ces temps si nous restons fidèles à la parole de Dieu. Mais il est nécessaire que notre temps aille jusqu'au temps fixé par Dieu. Le temps marqué par Dieu est devant nous et il nous faut aller jusqu'à ce temps qui est le temps convenable, le temps favorable. Je peux prendre l'exemple de Joseph que notre frère Didier a développé la semaine dernière. Et le psalmiste dit au psaume 105 au sujet de Joseph, « On serra ses pieds dans des liens » On le mit dans les fers jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Joseph a été rejeté et il est resté dans ce rejet jusqu'au temps marqué par Dieu. Pourtant, il avait une parole. Et pour que cette parole s'accomplisse, il fallait que le porteur de la parole, Joseph, eût été éprouvé par Dieu. Que le temps soit venu. Le Seigneur aurait-il agi avant le temps marqué ? Joseph n'était pas prêt. Comment aurait-il réagi vis-à-vis de ses frères ? Comment aurait-il dirigé l'Égypte ? Le Seigneur aurait-il tardé par rapport à l'accomplissement de sa promesse ? Joseph aurait été vaincu, écrasé, anéanti dans sa prison, parce que le temps été trop long. Le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu a marqué dans ta vie pour que la parole qu'il t'a donnée s'accomplisse. Oui, Dieu agit en son temps et son temps est parfait. Alléluia. Alors voici ce que je veux repasser dans mon cœur ce matin. Dieu a fixé les temps de ma vie. Dieu a marqué les temps de ma vie. Et même si le temps me paraît long, je veux attendre. Parce que la promesse du Seigneur s'accomplira. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Alors je veux attendre ce jour avec foi, avec espérance. Et je ne veux pas regarder au temps passé, mais je veux regarder au temps marqué qui est devant moi. Je ne sais pas où il se trouve, mais les yeux de la foi me disent qu'il est là, présent sur mon sentier. Et je demande au Seigneur de me fortifier dans cette espérance, avec cette conviction que si jusqu'à aujourd'hui, un jour, sont comme 1000 ans, tellement c'est difficile, lorsque le Seigneur agira, en un jour, il fera ce qui prendrait 1000 ans aux hommes. Alléluia. Alors voici le jour que Dieu a fait. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Voici ce jour est marqué par Dieu. En ce jour-là, les hommes ne diront plus « Où est ton Dieu ?» En ce jour-là, toutes choses seront pleinement accomplies. Et ils verront la gloire du Seigneur. Et ils verront la grâce que Dieu t'accordera. Alors aujourd'hui, je ne dirai plus « Le temps est passé ». Je ne dirai plus « Mon temps est passé ». Je ne dirai plus « Le temps de Dieu pour ma vie est passé, je n'ai point été sauvé ». Mais je dirai « Seigneur, je marche avec toi jour après jour vers le temps marqué. Tu m'as donné une parole et elle s'accomplira. Elle s'accomplira car le temps de Dieu n'est pas passé. Amen et Amen. » Alléluia. On va fermer nos yeux, incliner nos fronts.